Non, non, c'est qu'elles vont chercher quelques chaises.
Ah.
Dans le grand salon, oui, il n'a pas qu'à dire.
Oui,
moi je
vais
chercher.
Je suis
pas
avec
vous. Je
suis
pas avec vous.
Je
suis
pas avec vous.
Ils sont partis chercher des chaises.
Ah bon, je vais chercher.
Je ferai que passer. Je veux juste voir que ça marche. Je veux bien qu'Estelle, tu parles normalement. Vas-y, parle normalement. Attends, j'écoute. Attends. Regarde.
Alors, du coup, nous allons coller ma place. Hein,
ça va pas du tout.
Ça va pas du tout du point de vue du son.
Non, ça ne va pas du tout.
On va quand même pas s'interdire de parler. Alors, cet espace à
Olivier,
à une nappe, vous pouvez vous rapprocher, hein, en fait. Vous ne pourrez pas tourner autour, donc de toute façon, c'est un peu fait en ordre. Donc, vous avez le droit d'écrire sur cet espace, voilà. Et éventuellement, voilà, donc vous avez des petits post-it aussi, si vous voulez. Donc, vous pouvez vous l'approprier, vous nous dire ce qu'il y a dedans. Vous allez aussi tout simplement, parfois, je vais vous donner un post-it, le cas échéant. Voilà. On vous donnera plutôt des post-it au cas échéant pour les coller au bon endroit. Alors là, on est dans un moment de débrief un petit peu de ce qu'on a vécu. Mais avant, moi, j'avais une question qui pour moi était restée un petit peu en suspens. Et après, je reviendrai. Qui était finalement, on a parlé communication sur la gestion qu'on allait faire, etc. Mais finalement, confrontation, je dirais, entre le fait d'entretenir cet espace pour différentes raisons et le fait d'accueillir du public, on ne l'a pas tellement abordé. C'est-à-dire qu'on a abordé le fait d'expliquer au public, mais accueillir du public, ça veut dire que ce public, effectivement, aura envie peut-être d'aller dans différents endroits, on peut l'inciter à aller dans différents endroits. Mais ce public, il y a aussi le fait que au-delà de lui donner à comprendre, on doit aussi entretenir le parc parce qu'on accueille, parce qu'il y a un festival, parce qu'il y a différentes manifestations et que le public, bah, l'entretien de ce parc, c'est aussi par rapport au public qu'on accueille. Effectivement, les allées, etc. Et comment est-ce qu'on peut mieux concilier? On a commencé à dire comment on allait expliquer. Et est-ce qu'il y a des choses un peu concrètes pour continuer la discussion qui s'est amorcée là-bas, hein, mais vraiment à la clore, des propositions qu'on peut faire pour mieux concilier cet accueil du public par rapport à un entretien du château sans que ça nuise effectivement trop à cette biodiversité présente. Alors comment est-ce qu'on pourrait, entre guillemets, moins entretenir ou entretenir différemment pour que ce public, finalement, ne soit pas trop, confronté à certaines difficultés qui peuvent être toutes simples, hein, qui peuvent être traverser des herbes hautes, hein, puisse avoir une pratique du château, tout en préservant cette biodiversité. Alors, il y a des choses qui ont été citées sur la manière dont vous communiquez. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses que vous voudriez dire sur la gestion pour clore ce sujet?
Le concret, nous, on a fait un essai cette année, c'était de faucher comme les chenots. Déplacement autour des bosquets, ça semble un petit peu beaucoup, on verra quand le public va arriver, on est qu'au début, mais c'est déjà un premier essai concret qui a été fait. Le seul truc, c'est que techniquement, on a dû le pousser un peu plus loin, ce qui donne un accès à des zones qui auraient dû rester un peu libres, parce qu'on a dû, pour des raisons techniques, dégager des chemins pour suivre les gouttes à gouttes qui permettent à quelques plantes de survivre, et du coup, ça a ouvert des chemins pour des zones qui pourraient peut-être parler. Pour les mettre en deuxième révolution, sauf qu'elles sont toutes en goutte à goutte dans toutes les zones. Donc, quelle que soit celle qu'on choisira, il y a du goût d'être partout. Et si on veut savoir où il est, où contrôler, ben, il faudra penser à ça à l'avenir. La lune a ouvert des chemins partout autour du bosquet qui suivent les bouts de la route. C'est magnifique, en plus, c'est au-dessus des tuyaux plastiques.
C'est un vrai sujet et c'est des allées qui sont ouvertes sur des critères qui sont techniques et d'usage
d'entretien.
Et la grande difficulté, c'est que du coup, on casse complètement l'art en fait, qui a été mis dans cette composition. Et du coup, les gens n'empruntent plus les allées qui ont été imaginées au départ pour voir si, avoir une perspective comme ça, cadrée sur le château, sur la tour, sur le machin. En fait, en créant des allées fictives, c'est pas fictif, mais enfin, avec des logiques comme ça, moi, ce qui me dérange énormément, c'est que du coup, il n'y a plus d'effet. C'est des allées pour que les gens fassent quoi ?
Déambulent,
mais du coup en perdant l'intérêt, et donc évidemment qu'ils ne vont pas aller là-bas, puisqu'ils ont. On leur donne à voir au plus près du château exactement la même chose que partout. Donc en fait, on perd complètement, me semble-t-il, l'intérêt et la motivation que peuvent avoir les gens pour aller jusqu'au bout, parce qu'au bout, il y a dans le coin, il y a une partie avec des arbres un peu particuliers, il y a des bruits particuliers de l'autre côté, au sud. Au sud-est, on a aussi des arbres de plus petite hauteur, avec de l'ombre, avec enfin des clairières. Les ambiances ne sont pas les mêmes. Et en fait, on perd ça, quoi.
Il n'y a pas eu une année cavalière qui faisait le tour ?
Non, le tour, vraiment...
Parce que très fréquemment, dans ces grands jardins,
ouais,
c'est le château d'Avignon, qui est pas loin.
Et
en fait, il y a ce boulevard de ceinture, quoi, quasiment.
C'est un peu moins vrai, parce qu'en fait, la partie sud a été raccrochée dans un deuxième temps au parc. Et donc, il y a eu. Mais oui, il y a quand même une grande boucle qui part vraiment dans le sud.
Et puis, quand ce jardin a été créé, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il n'y avait pas 17 hectares ici. Il y a 3000 hectares de rizières par là, 3000 hectares de vignes de l'autre côté. Et il y a tout un bois. Jusque derrière, qui appartient aujourd'hui à ce qu'est la propriété viticole, et je pense que les cavalières, normalement, elles partaient par ici, par le bois, et c'est là qu'on avait l'arrivée traditionnelle, c'était par ici, et traversait le bois. On arrivait par la forêt, c'est un truc, il y avait une mise en scène. Et du coup, ça vous parlait de mise en scène tout à l'heure, ça me fait penser à un truc, en fait, on est sur une recherche quasi schizophrénique, parce qu'on veut, dans un espace qui a été fait pour mettre en valeur une construction, un château qui montre un statut social, mettre en valeur de la nature, d'une nature qui n'a jamais existé ici. Parce que d'abord, on est dans un delta de rivière, à la base, et que ensuite, tout cet espace qui existe ici est créé. S'il existe un espace naturel dans l'espace où on est ici aujourd'hui, c'est un truc qui ressemblera plus à l'accro ou quelque chose comme ça.
Ce que je tiens à dire, c'est que tout à l'heure, Patrick a dit quelque chose d'intéressant, c'est sur la communication. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas un parcours clairement identifié, je reviens toujours à ces panneaux, qu'ils soient numériques ou qu'ils soient, j'ai envie de dire, mécaniques, c'est-à-dire juste un panneau sur bois avec des dessins, des choses, qui répertorient la faune, la flore, et qui ait un sens, qu'ils soient affichés, qu'il y ait un circuit, et que les gens découvrent un parcours. Parce que moi, par exemple, alors pourtant, j'ai un œil aussi de photographe, et j'ai pas fait cette différence jusqu'au fond du parc, des petits arbres, enfin, de tout ce que vous allez voir, vous, à travers vos connaissances.
Parce qu'on l'a pas mis en valeur, en fait.
Exactement, parce que c'est pas du tout mis en valeur, et c'est vraiment dommage. Et à la limite, je crois pas que cette technique de mettre des petits panneaux ou de faire un circuit qui soit affiché dès l'entrée du parc, enfin, soit quelque chose de très cher, de très invasif, parce que ça va déranger personne, en fin de compte.
Le problème, c'est qu'après, on arrive à des jardins pédagogiques.
Oui.
Et on perd le côté jardin plaisir, enfin, je ne sais pas, le jardin juste. On est dans la nature et on a le côté pédagogique qui prend le dessus. Mais effectivement,
est-ce que ça
d'avoir un panneau à l'intérieur, enfin, près des bâtiments qui expliquent et puis éventuellement qui montrent des parcours à thème.
L'année dernière, dans ma réflexion sur les parcours que je voulais créer, c'était un parcours d'installation, il y avait 11 installations, petites et grandes. Quand je me suis promenée, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que le public verrait si tu es avec moi. Mais donc, mais c'est peut-être plus un regard de la beauté du paysage, de la diversité du paysage. Donc, quand j'ai marché, je me dis, ah, c'est un toit, on a envie de rester un peu. Qu'est-ce que je pourrais faire comme un marqueur pour s'arrêter ici? Et une chose qui est, par exemple, la prairie, c'est extraordinaire, les grands herbes sont extraordinaires, mais si on fait pas, on avait fait un parcours temporaire pour rentrer dans la cabane, mais au-delà de la cabane, un parcours temporaire dans la prairie permet de découvrir les paysages qui entourent la prairie, les arbres qui entourent la prairie, c'est hyper beau. Que si on a un parcours temporaire, juste un mètre de tendre
de largeur,
un mètre de largeur, ça permet de garder cette idée de beauté, de sensibilité, de découvert, et ce n'est pas forcément pédagogique.
Mais ça guide les gens, ça invite les gens à prendre le chemin, à traverser la prairie, parce que sinon personne, il y a des chardons, il y a tout, personne n'ira. Mais du coup, ça invite à y aller et ça invite à passer à côté de ton œuvre. Et ça, c'est très intéressant. En fait, c'est vraiment, ça participe complètement à la construction paysagère, en fait. Parce que tu as vu qu'à l'endroit de ta cabane, c'était intéressant d'y être parce que tu avais, je ne sais pas ce que tu as ressenti, mais tu avais peut-être une vue sur une partie du château qui était jolie, ou parce que tu as une vue sur les frondaisons avec les pins parasols qui sortent de la masse. Donc, c'est parce qu'il y a un intérêt paysager que tu habites à ta cabane ici, peut-être.
Parce qu'il y a un intérêt paysager, mais aussi les parcours qu'on a tracés pour arriver à la cabane, l'intérêt, ce n'était pas la cabane. L'intérêt, c'était ce qu'il y avait autour. Donc, du coup, ce parcours, c'était pas linéaire, c'était plutôt en courbe. Les corps, ils étaient guidés à regarder une chose et pas la cabane. Pas chercher la cabane comme but, on savait qu'on allait arriver à la cabane.
Oui, parce que c'était dans la prairie quand même, donc
oui, voilà. Bien que mais le parcours était amené à regarder à droite, à gauche.
C'est pour ça que l'idée de l'aller me semble intéressante.
Justement, je pose la question simplement de la prairie, c'est-à-dire que si vous ne faites rien à la prairie, ce ne sera plus une prairie. Donc il faut nécessairement qu'elle soit entretenue par un moyen quelconque. Alors pourquoi ne pas aller vers une prairie peinturée?
Oui.
Qui à ce moment-là, alors avec tout problème de public et public et animaux, hein, donc là on rebondit sur notre problème, si on veut, mais autrement il faut faucher. Donc si on veut mater la prairie, il faudra faucher soit à l'automne, soit...
Ça a cette partie pédagogique quand même, parce que, entre guillemets, je vois hein, dans beaucoup de villages hein, sur la région, dans des moments où il y a des départs de moutons, des transhumances, des trucs, enfin tous les gens ils sont là pour
accueillir. Oui, mais ça tient plus haut.
Voilà, c'est...
Après, il faut gérer les animaux, c'est quelque chose...
Il y a déjà eu des moutons l'année dernière. Ouais.
Bonjour.
Donc on a la question de la vie publique.
Moi, je trouve qu'on se pose énormément de questions sur les publics, donc il faut rappeler la base qui est qu'ils accueillent 4000 visiteurs par an. Je travaille dans un site qui accueille 15 000 visiteurs et on trouve que déjà, c'est pas beaucoup. L'accueil du public, ça reste quand même anecdotique à Espérant. Et on l'accueille principalement sur le festival, les journées du patrimoine, c'est deux week-ends dans l'année, et puis après dans les scolaires. Dans les scolaires, c'est facile de les contenir, pour le coup, on va pas... les lâcher à l'aventure, puis sont toujours
guidés. C'est pas si anecdotique, je pense.
Il y a des moments...
C'est pas si anecdotique parce que c'est ce public-là qui permet le retour du château.
Oui, mais très peu ouvert.
Sinon, le château serait clos.
Oui. Mais moi, je suis pour l'ouverture encore plus parce que tout le monde a des demandes. Mais est-ce que le but, est-ce qu'on tend vers ça?
Ça
risque.
Donc, du coup, l'idée, c'est... J'ai l'impression que c'est suivre cette ouverture qui s'est faite de manière prudente, petit à petit, au rythme de l'État, au rythme des moyens, au rythme des gens, des projets. Mais elle n'est pas anecdotique. D'ailleurs, c'est ce public qui est en train de guider cette ouverture du château.
Mais si on veut en faire plus et si le but est de réfléchir, on veut faire plus, donc il faut trouver la solution pour le faire le mieux possible, ok. Parce que moi, j'avais pas le sentiment qu'on allait vers une plus grande ouverture. En tout cas, c'est ça ce que souhait.
C'est notre but. Il y avait toute la structure même du administratif du château qui était organisée pour ça. On avait un responsable des publics, ce qui n'existait pas avant. Quelqu'un qui va s'occuper spécifiquement des collections pour que ça puisse être ouvert. Mm-hmm. Parce que pour ouvrir l'étage, par exemple, il faut qu'on ait des bonnes conditions d'hygiène vis-à-vis des insectes et tout ça. Et voilà. Et du coup, il y a de la pédagogie aussi qui va être prévue autour de ça. Et je pense, d'après ce que vous disiez tout à l'heure, il faudrait qu'elle soit double d'ailleurs. Et moi, je ne suis pas pour une ouverture massive d'office, mais progressive avec une pédagogie double, une sur la nature et une sur l'histoire ici. Parce qu'on ne peut pas s'inventer. Site naturel, alors qu'on a un site historique d'abord qui est ici pour mettre en valeur la vie d'une famille à un moment donné. Mmh. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est la raison d'être de cet endroit-là, et en plus des archives.
C'est les noyaux.
Hein, c'est le noyau du truc.
Et du coup, cette idée-là, comment est-ce que tu la relierais au comité d'espérance ou à la charte plutôt l'un des deux outils, ou est-ce qu'il faut dans le comité des personnes particulières à y intégrer pour que cette question-là puisse y être débattue, qu'elle soit bien intégrée?
Il faut commencer par là, oui, à débattre de cette idée-là, parce qu'elle a peut-être pas encore été tellement remue, je pense, qu'il y a une...
L'idée
de lancer une pédagogie double pour l'ouverture à un public, mais sous condition qu'il ait été un peu formé avant. Pour moi, c'est ça l'idée. Bon, si on ouvre tout de suite, ici, et qu'on double ou triple, parce qu'on dit on veut ouvrir plus, ce qui va se passer, c'est qu'on va trouver des magnifiques petits papillons blancs à motifs floraux avec un abdomen marron qui vont se balader partout dans les sous-bois. Ça, on va essayer d'éviter, par exemple.
Et puis ça va pas arriver, les gens, pour aller dans un endroit,
Ouais. On parlait la dernière fois de dire aux artistes, il y aura des conditions pour venir ici, il faut que pour le public ce soit pareil. On va ouvrir au public, mais il y a des conditions pour venir ici.
Mais là,
c'est respecter une charte aussi, quoi.
Cette ouverture souhaitée avec ce projet culturel lié à la création, ça donne aussi un trait où c'est ouvert au public de manière générale, mais n'est pas tout le public mondial. Donc, la question des enfants, ça va être toujours au centre. Tu penses que ça va continuer à être un lieu beaucoup pour les enfants. Et que peut-être qu'il faut réfléchir à ce public-là. À ce public-là. Ou bien, il y a aussi une question de public liée à l'artistique, mais une chose vient avec l'autre. Mais je pense qu'il y a un travail spécifique à imaginer dans les long termes avec le public.
Enfin, s'interroger, c'est la première étape.
Faire juste une précision, parce que c'est important. Tout comme m'arrive de dire, quand on parle de tourisme, ça ne veut pas dire qu'on a forcément des cartes de japonais. Mm-hmm. Je pense que quand on parle d'une expérience d'accueil, de fréquentation, même si on accueille 20 personnes, on peut déjà poser la question du soin et de l'expérience de la fréquentation, même s'il n'y a que les classes qui viennent aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose qui va marquer. Et donc, on peut tout à fait, bien sûr, quand on dit, aujourd'hui, c'est anecdotique. Mais même si c'est anecdotique et progressif, ce n'est pas pour autant que la question de je me pique, je me gratte, etc. Ce n'est pas pensé quelque part et ça ne m'est pas expliqué. Le soin apporté à l'expérience vaut, même s'il n'y a que quelques personnes, parce que justement, en plus, c'est beaucoup d'enfants. Ils vont dire des choses, ils vont se souvenir de choses. Et du coup, je voulais juste faire cette précision importante sur le fait que c'est pas... Parce qu'on vit dans une société très indicateur, très quantitative. C'est pas toujours le quantitatif qui décide de l'attention qu'on porte aux choses. C'est juste un... Et vous vouliez parler
Non, moi je voulais peut-être qu'on peut expliquer la table aussi.
Voilà, on va expliquer la table. Il y avait une intervention tout à l'heure qui attendait.
Oui, deux maintenant. Tout à l'heure, on parlait encore des paysages et tout ça, et je voulais vous faire remarquer que, par exemple, le paysage des chênes d'Alep, vous voyez que le loupier à cause des chênes verts. Et le paysage des pins d'Alep purs, c'est un autre paysage qui est, pour moi, un peu plus intéressant. Quoi. Mais bon, donc ça dépend ce qu'on veut voir. Quoi. Donc là, pour l'instant, dans les pins d'Alep, on voit que le haut, on ne voit jamais le bas. Et ensuite, pour, en 2014, moi, quand on a eu qui m'a contacté avec Frédéric, j'avais compris que, justement, c'était pour une ouverture au public, et ils voulaient installer des collections aussi de plantes pour faire venir ce public-là de connaisseurs qui viendraient. Alors, il y a une double chose, c'est que ça, c'était une adaptation, voir qu'est-ce que les essences adaptables au sol, et montrer une diversité justement des zones méditerranéennes du monde. Avec cet aspect pédagogique, etc. Et je vois que depuis 2014, en fait, c'est tout de l'eau. Enfin, je vois pas de. Il y a des trucs qui ont été plantés, mais il n'y a rien de pédagogique, et puis ça a été planté un peu n'importe où. Quoi. Au départ, moi j'avais compris que c'était comme pour faire un
arboretum.
Oui, enfin, mais pas. Des herbacées, enfin tout. Il pouvait y avoir des plantes de feuilles dessus, des herbacées, etc. C'était pour attirer un public méditerranéen pour leur montrer une diversité méditerranéenne. Quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'avais compris. Quoi.
Et puis montrer aussi les arbres d'essence
peu connues.
Qui seraient adaptés ici.
Voilà. Dans un futur, justement, on n'arrête pas de parler, il va falloir quand même adapter la sécheresse, etc. Et puis, même l'ONF fait tout le contraire. Voilà.
Donc il y avait la question d'expliquer la table. Donc si tu montres par les parties, tu peux le prendre pour un petit côté, et si tu veux, tu expliqueras ton côté. Alors on est dans une expérience, à chaque fois, vous êtes au comité d'espérance, et il y a différentes phases. Alors là, on fait un petit peu en accéléré, pour dire qu'on pourrait se donner du temps. Comité d'espérance, finalement, on a ici posé, et tout le monde a le droit d'écrire partout, voilà. On va poser ici à la fois notre expérience du jour en suivant les différentes phases, en réponse à notre question, mais on peut aussi se noter que pour la construction de ce comité d'espérance, on peut aussi noter tout ce qu'on a appris de notre expérience concrète d'aujourd'hui, en gros. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et ça on peut aussi l'indiquer ici. Donc je vais juste expliquer très vite les différentes phases. C'est qu'un comité d'espérance, tout d'abord, on interroge une évidence. Et aujourd'hui, c'est le fait d'accueillir du public et puis aussi d'entretenir l'espace et comment ça se confronte à un souhait de maintenir et de préserver la biodiversité. Ensuite, dans ce comité d'espérance, on analyse. On a amené chacun son analyse, sa vision. On va analyser la problématique, ce qu'on a à résoudre ensemble. Il y a ensuite à fédérer, constituer un groupe sur le moment autour de cette question, mais aussi demain, qui il nous faudrait pour réfléchir mieux sur cette question, qui il nous faudrait pour travailler sur cette question. Aller vers rechercher, expérimenter, ce qui pourrait être un peu l'aboutissement de notre échange d'aujourd'hui. Bien sûr, on va débriefer sur ces différentes étapes, on va voir en synthèse si on est d'accord sur tout ce qu'on s'est dit à ces différentes étapes. Mais ce qui serait un peu pour moi l'aboutissement aujourd'hui, c'est qu'on aille sur cette notion de comme réponse, au vu de tout ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on aimerait tenter comme expérience. Peut-être chacun pour soi, je vous proposerai à la fin de dire, moi, qu'est-ce que je propose comme expérience, comme expérimentation, elle a le droit d'être même un peu folle, pour répondre à la question qu'on s'est posée au départ. Instituer, c'est à partir, effectivement, alors tout cela n'est pas qu'un processus linéaire, on a du continu, puis on passe de l'un à l'autre, on peut revenir en arrière, etc. C'est-à-dire qu'on a déjà marqué des choses dans instituer. Quand tu as parlé de la raison d'être du lieu, ça veut dire que pour répondre à cette question, on devra toujours se référer à une raison d'être, à la fois historique et aujourd'hui de ce lieu. Donc c'est instituer, c'est qu'est-ce qu'on va fixer un petit peu comme principe, comme ligne directrice, comme règle aussi, ça peut être du règlement, ça peut être des choses de cet ordre-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va
poser des procédures pour réussir à mettre en place une idée, des fois.
Et puis, qu'est-ce qu'on va transmettre, communiquer, partager de cette expérience? On va la capitaliser, par exemple, si on dit, ben tiens, on va oublier des lieux, on va faire une capsule temporelle, ou alors on va demander à Julia de nous faire des barrières virtuelles, imaginaires, comme elle le veut, pour que les gens n'aillent pas à un endroit. Si on teste ça, comment est-ce qu'on va en rendre compte des questions qu'on s'est posées et comment on va avoir un résultat de ce qu'on a testé et comment est-ce qu'on va le communiquer à d'autres pour dire regardez, on a fait ça, on est très content de cette expérience. Voilà. Donc c'est toutes ces phases et on va faire un petit débrief donc, de ce qu'on s'est dit sur cette question particulière, mais aussi pouvoir réagir sur le fond de comment ça marche, le comité d'espérance et de votre expérience. Je te laisse.
Ensuite, la deuxième partie, ça concerne plutôt la charte donc de l'accueil du public. Il y a déjà des grandes thématiques qui sont présentes. C'est des thématiques qui ressortent des deux précédents ateliers. Et qui, du coup, aujourd'hui, on est là pour décliner cela sur peut-être des choses plus opérationnelles, sur on a d'autres idées, ou pour abonder les premières choses qui en sont sorties. Il y avait notamment le fait que cette charte elle doit être diffusée largement au plus grand nombre et le plus tôt possible, qu'elle doit concerner toutes les personnes qui viennent sur le site, que ce soit pour travailler, pour visiter ou pour partager une expérience au château. Elle a pour vocation d'accueillir dans les meilleures conditions. Elle ne doit pas interdire mais inviter à changer peut-être ses pratiques ou dans le respect des facilités du site. Elle doit être le reflet d'un changement, d'engagement réciproque entre le château, donc les engagements qu'il y a notamment dans le RE, et les personnes qui viennent la visiter. Et elle peut être déclinée selon une diversité d'outils qui restent aujourd'hui à construire et même à inventer.
L'idée, c'est d'éviter les erreurs de casting, c'est de permettre au château de s'exprimer sur ses valeurs pour que l'artiste, par exemple, s'y retrouve et alors réponde à l'appel à projet pour une résidence d'artiste, ou au contraire, se disent, oulala, là là, tout ça, c'est pas pour moi, c'est pas mon univers, et même pas, ils postulent à une résidence. Pareil, pour un prestataire qui interviendrait dans le parc, par exemple, il faut qu'il ait connaissance de ses valeurs pour se dire, ah ben, moi, ça, c'est bien mes méthodes, je travaille comme ci, comme ça. Et donc, pareil pour les scolaires, pareil pour les personnes qui viennent se promener, c'est d'offrir à chacun de comprendre, de permettre au château de se présenter et pour essayer de faire de belles rencontres. C'est pour ça que c'est accueillir dans les meilleures conditions possibles, éviter de se faire surprendre en se disant waouh, mais.
Comme les vélos à l'entrée.
Comme les vélos à l'entrée.
Peut-être arriver une liste des mots valeurs, une liste des nuages des mots de ceux qui identifient les
valeurs. Alors voilà, là, sur les deux ateliers précédents, on a eu des principes qui sont sortis du c'est quoi la charte, mais vous pouvez complètement mourir avec des valeurs, justement, ou de ce que vous voulez.
Oh, la charte, c'est charte. Les chartes et son intégrance ont devenu un fait, des faits,
ça peut
être personne va les lire. En fait, tu t'endors sur la charte, tu ne les lis jamais, tu vas, si c'est jamais clair, d'un point de vue haut du public, haut de l'artiste, ces chartes, ils vont la poussière. Ils vont rester, garder un règlement intérieur, ça, il faut donner des concepts qui permettent de piocher très rapidement dans une lecture de deux pages. Je dis comme ça.
Je te rejoins parce que dans les chartes, il faut aussi.
Puis la charte, c'est trop français.
Il faut souligner qu'il y a des droits, pas que des devoirs.
Voilà. Ouais. Charte, c'est lié à. Oui,
donc, on voit souvent la charte comme
tout de suite. Là,
et d'ailleurs, dans les ateliers précédents, il y en a qui ont imaginé un support vidéo qui ne sera certainement pas celui-là qu'on mettra dans les marchés publics. Parce que du coup, c'est ça les déclinaisons. C'est de se dire pour une entreprise qui vient travailler ici, c'est un marché public. Mais par contre, la vidéo, ça peut être un bon support pour le scolaire, l'habitant, le visiteur, l'artiste. Je sais pas. Mais c'est juste pour rebondir sur ce que dit Julia, c'est ça. C'est que la question même de la forme de la charte peut être posée.
Il faut qu'on arrive à résumer notre charte en un truc qui tienne moins de 5 minutes.
Ou bien.
Qui soit une partie
d'introduction,
soit au site pour se balader pour le public.
C'est une charte qui a plusieurs supports, plusieurs manières de s'exprimer.
Et vous avez notamment dit, lorsqu'on visitait, que la charte à vocation éthique, elle doit avoir des valeurs qui s'intègrent dans les futurs changements, c'est-à-dire qu'elle soit adaptable et qu'elle ne soit pas figée à un instant T, par exemple.
Et tout ça en 30 minutes.
De toute façon, les chartes, elles évoluent toujours.
Absolument, c'est un texte évolutif.
La charte, tout de suite, c'est l'idée de texte.
La charte de technique,
ça donne un charte à un enfant. Parce que tu dois un enfant de 7 ans une charte. Donc il faut se poser la question de cette livret d'accueil. C'est horrible aussi. Il faut se poser la question de cette charte. Quelle serait la forme
accessible à tous les parce que plusieurs les personnes handicapées.
Voilà.
Plusieurs publics pour cette charte.
Une charte multiforme. Oui. Qui veut dire la même chose.
Est-ce que mieux ce serait pas que ce soit humain simplement cet accueil? Si le truc est très court, ça part
de pour des enfants, voilà.
Quelqu'un qui explique, soit l'artiste qui vient, qui va se poser, qui vient pour son premier entretien, soit un public qui rentre et qui ouvre la grille, il passe par le bureau, là, en disant, ben voilà, vous allez voir ci et ça, ici on a des petits principes, c'est ci et ça, et puis voilà, je vous souhaite une bonne visite, il y a, c'est voilà, le cadre dans lequel on est ici.
Mais quand tu as ton prestataire qui vient déposer un appel pour un marché,
oui, il lui faut
Si tu as les artistes qui vont se présenter,
il faut un support.
Il faut un support. Donc, il faut penser à la déclinaison de la charte.
Soit écrit.
Non, mais une charte, c'est pour moi, c'est pas.
C'est une charte de visite comme ça, et c'est un dessin animé, en fait. On regarde, et c'est génial, en fait. Donc, ce dessin animé est très simple, c'est pratique. Et ça explique qu'est-ce qu'on peut faire dans le musée et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire.
C'est pas un cahier des charges, c'est un
contrat.
Un contrat de valeur, quoi.
Ouais, c'est ça.
Il faut que ce soit simple.
Bien sûr.
Donc la déclinaison de la charte.
Oui,
déclinaison visuelle, texte, graphique, où est-ce qu'elle est accrochée dans les sites internet, dans
elle peut avoir plusieurs formes.
Si tu as une classe qui arrive, tu peux la donner.
Moi, je pense que les châteaux doivent vraiment travailler à 400% de la communication.
Alors, si on était sur analyser, histoire de faire un débrief, dans interroger, si vous deviez tous reformuler effectivement la question un peu comme tu l'as fait, vous aviez une question de départ, qui était un peu compliquée, merci. L'entretien du parc au printemps, quels sont les enjeux pour la biodiversité, comment protéger ce patrimoine culturel classé monument historique en prenant également en compte sa biodiversité, comment concilier ces enjeux et l'accueil des personnes dans le parc, quelle place pour la création artistique. Alors, si il y avait une vraie question à se poser pour arriver là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on expérimente maintenant, est-ce que vous reformez? Qui se lancerait pour reformuler la question? Toi, t'as dit, c'est la vraie question que le château a à se poser, côté d'interroger, ce serait quelle communication pour faire
son activité,
pour
ses
son
activités.
Projet,
pour
ses
son
activités.
Projet.
Voilà.
Mais avant ça, il faut que les projets, on entende le terme, qu'ils se détendent.
Qu'est-ce que c'est le projet, de manière très synthétique.
Qu'est-ce que c'est ce projet nature, culture, écologie
Et même en interne, je ne sais pas.
Éventuellement, si.
Enfin, je dis ça, je dis rien.
Oui.
Mais parce qu'il y a aussi la question des le projet, on parle des personnes qui viennent de l'extérieur, mais les personnes qui sont à l'intérieur du château, ceux qui travaillent, il y en a qui y vivent.
Quel est le projet? Quelles sont les valeurs Est-ce que les valeurs ont été reliées au projet ou au lieu
Parce que de toute façon, pour faire un plan de gestion, il doit bien être obligé. Enfin, au bout d'un moment, il faut trancher, quoi. Il faut hiérarchiser ce qu'on a envie de faire. On doit tout faire et pas à la même échelle.
Mais quel serait le moyen de hiérarchiser?
Mais justement, hiérarchie, ça implique une image qui c'est comme ça. Mais si on parle en termes d'écosystème,
par là, on le trouve.
Même les langages, la hiérarchie, tout de suite, c'est pyramidal. Ouais. Du coup, si on pense en termes d'écosystème, tout de suite, ça respire tout de suite. Ok, peut-être que c'est lié au temps. Hiérarchisation par rapport au saison, on ne sait rien.
En fait, ce qui ressortait pour des premiers ateliers, notamment, je comme notion très très forte, c'est dans la notion d'équilibre écosystémique, c'est à l'inverse d'une hiérarchie, c'est la priorité dépend du sujet, dépend du moment, elle est totalement vivante. C'est-à-dire que, on l'avait dit, par rapport au patrimoine, oui, le patrimoine c'est important, le paysager, et que le paysager inclut nécessairement qu'on doit avoir du public. Et donc, on ne peut pas faire, on fait une croix sur le public dans ce cas-là. En fait, il y avait cette notion de. Un parc, c'est fait pour s'y promener, donc quelque part, ça perd un peu de sens si il n'y a jamais de public dans ce parc. Il est fait pour, il est destiné à quelqu'un.
S'il n'y a personne, oui.
Voilà, s'il n'y a personne. Voilà. Et pour dire qu'en fait, selon le sujet, la question de ce qui. La considération prioritaire, elle n'est jamais la même. Donc les priorités, elles ne sont pas absolues, elles dépendent de ce dont on parle, et on est effectivement à quelque chose qui est d'équilibré. Et par moments, ça penche plutôt d'un côté, plutôt de l'autre, en fonction de ce dont on parle, effectivement, par rapport à l'essence.
Et on se descend l'humilité, parce qu'on parle en matière de jardin, on n'est pas à l'abri d'une tempête qui casse tout, on n'est pas à l'abri, hein, c'est la nature quand même, donc avec une certaine humilité qui laisse la place à la nature de manière fondamentale, c'est-à-dire que notre vision future qu'on peut projeter sur le parc, on n'en est pas maître et on ne la contrôle pas.
Là, c'est naturel.
On accepte de ne pas pouvoir y arriver. Alors, et ça peut évoluer, en fait. Mais quand on se laisser la simplicité de se dire que cette vision, elle correspondait à un temps donné, à une commission à un moment donné, mais qu'il faut intégrer, à mon avis, la possible évolution.
Alors moi, je dirais dans le fonctionnement, par rapport à ce que vous dites, ça s'est revenu plein de fois, dans le fonctionnement, dans l'institut un peu, du comité d'espérance en lui-même, dans la façon de réfléchir. Il me semble qu'il a beaucoup été question, certes, de respecter un historique, donc de connaître, la connaissance c'est important de savoir d'où on part, mais que par humilité aussi, on situe la réflexion dans l'ici et maintenant. C'est le projet d'aujourd'hui qui peut bouger, la question peut bouger, la façon de la considérer pourra bouger. C'est que le comité d'espérance, mais vous pouvez réagir à ce que je dis, c'est pas du tout ce que vous avez voulu dire. Il pense la réponse pour aujourd'hui. Il a l'humilité de se dire qu'il ne grave pas dans le marbre, qu'il essaye de.
C'est pour demain quand même.
Pour aujourd'hui, j'entends.
C'est quand même une vision à long terme. Mais
les actions sont pour aujourd'hui.
Mais les actions, on les met en place et on peut aussi les programmer à moyen terme ou à long terme. Mais simplement, de se laisser la place d'une évolution et de ne pas les faire ou de changer. Mais simplement, je pense quand même qu'avec cette histoire, avec cette question d'histoire, de patrimoine, il y a un certain nombre de choses qui constituent le squelette, si tu veux, et qui sont fixes en fait. Selon moi, il y a des fondamentaux, et après...
Et si on demandait, si on posait cette question de... Bon, c'est vrai qu'il y a la question de lieu pas vraiment bien, mais si on posait cette question des valeurs à la nature, et on les applique à l'achat. C'est pas abstrait ce que j'ai dit.
Du tout, c'est carrément le sujet qu'il faut mettre là-bas.
Pour pouvoir faire émerger ces valeurs, j'ai tout de suite expérimentation, il faut que ça soit partout. Donc, organique, pour que les gens comprennent que c'est pas systématisé. Si on posait la question à la nature elle-même, quelles seront les valeurs qui pourraient impulser les projets? La nature, il n'arrive pas.
Oui, le fonctionnement du vivant inspire nos valeurs.
Exactement.
Ce qu'il veut dire en expérimentation, expérimenter une réflexion, il y a des tests de ça, du biomimétisme, tout ça. Et si on réfléchissait sur nos valeurs, ça pourrait être un atelier, un travail, en s'inspirant de la nature, de ce qu'elle nous dit. Oui.
Et par rapport à ça, j'ai une petite étiquette. Je pense qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'ici on accueille plein d'artistes, il y en a autour de la table, et un des gros travaux des artistes, c'est quand même aussi de questionner la question de ce qui est beau. Et ici, j'ai l'impression que ce qui ressort, c'est qu'on a tous des visions un peu différentes de ce qui est beau, de ce qui est propre, et notamment sur les jardins, sur leur entretien. Et peut-être expérimenter de ce côté-là aussi sur peut-être ce qui peut être beau, c'est aussi quelque chose qui est fonctionnel d'un point de vue de la biodiversité, qui peut accueillir un très grand nombre d'initiateurs, tout comme ça. Ça peut être aussi une piste.
Et aussi la notion du manche. Oui, la notion du manche, elle peut être aussi poser d'autres, donner d'autres pistes. Une cylindre, voilà.
Mais relié avec la communication aussi, peut-être expliquer ce qui est beau pour certains, moche pour d'autres, propre, sale.
Est-ce que vous avez un exemple précis?
Alors comme ça, c'est pas évident.
Moi, j'ai un exemple, par exemple, là où on était, l'œuvre d'art qui s'est écroulée, qui est par terre. Est-ce que... Comment on le situe, ça? Parce que l'œuvre d'art, est-ce que ça s'inscrit dans l'œuvre? Mais à ce moment-là, effectivement, il faut de la communication, de la pédagogie.
Parce que l'idée...
En fait, c'est des choses qui doivent être débarrassées. Sinon, il faut qu'on contacte les artistes pour qu'ils viennent le faire.
Est-ce que c'est aux artistes à débarrasser? Est-ce que c'est dit dans les contrats?
Faut que la question
les artistes,
posée,
le moment où on enlève l'œuvre,
jusqu'à quel point l'œuvre est définie comme étant terminée, si on peut dire terminée pour une œuvre, j'en sais rien.
Pour amener, pour tirer vers l'autre, là on est côté, c'est cadre qui était hyper beau, là, parce qu'ils sont terre, mais ce cadre, ça a donné quelque chose de point de vue du paysage à voir et à y être. Ça changeait complètement les rapports de paysage. De l'autre côté, on a cette œuvre que j'ai faite qui s'appelle Vivos. Là, quand on passe, elle est moche. Et il y a, si je ne me trompe pas, quelqu'un, et ça a posé beaucoup de questions, qui dit il faut enlever ça, ça fait sale. Voilà. Oui, ça fait sale.
Une autre des questions, c'était les oiseaux vont se prendre dedans, les chauves-souris, il faut absolument vous enleviez ça sans se poser la question, sachant que ça leur a posé aucun problème.
Ça fait ça. Donc la personne qui a émis cette. La personne qui a émis cette observation, peut-être qu'elle ne savait pas, peut-être non, elle ne savait pas, je ne sais pas si c'est une femme, elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Donc là, on revient à la question de la communication, et aussi l'accompagnement. Heureusement, ça a été dit, ça a été pensé, ces vêtements, ils vont rester pendant les saisons pour qu'on observe ce qui se passe entre la nature, entre l'herbe, et voilà, pour signifier les liens entre l'humain et la nature, et comment... Mais voilà, donc il y a ces la question de la temporalité de l'œuvre.
Voilà, c'est ça.
La temporalité.
Et est-ce que c'est pas dans la
charte?
Oui, c'est ça. Donc elle doit traiter de la temporalité de l'œuvre. En gros, que l'artiste dise c'est la durée, elle durera tel temps. Voilà, après, le devenir. Ou vous pourrez l'enlever, ou
le devenir. Et.
Certains artistes se sont posé la question, ils ont voulu interroger, on leur a pas fait le suivi qui aurait dû être fait.
Parce que c'est lié au stade de la
qui représentait différents états du plan des jardins. J'avais pas d'explication à côté, quand les médiateurs n'étaient pas là, c'était difficile. Parce que dans un cadre comme celui-ci, c'était un peu incompréhensible. Alors qu'il y a pas de raison d'être, mais assez conceptuel et ça saute pas aux yeux comme ça. Et il nous a posé la question de la temporalité. Lui-même savait que le pensée global qu'il a fait rapidement, expérimenté, qu'il a voulu, naturel, qui risquerait pas d'abîmer les alentours, etc. Et à un moment, nous avons dit, bon, ça en est où, s'il y a besoin de l'enlever, vous me dites.
Par exemple, moi, j'ai expérimenté cette œuvre, je reviens à moi parce que c'est le cas que je connais proche. Voilà. Du coup, cette œuvre-là, qui aujourd'hui, ça recoupe l'espace, comment ils ont tendu l'herbe, les responsables du château ont dit, n'étendez pas, ne lève pas ça. Je ne savais pas, jusqu'aujourd'hui maintenant. Qu'est-ce que j'allais faire avec ça? Et aujourd'hui, j'ai compris. Parce que c'était un processus d'expérimentation d'une œuvre, d'une recherche. Donc, je cherche une chose que je ne sais pas ce que c'est. Au départ, je cherche, j'y vais à l'inconnu. Pour cette œuvre-là. Je connais les matériels, je connais ce qu'elle veut dire, je connais ce qu'elle véhicule symboliquement, historiquement, plein d'autres choses. Je n'ai pas fait 10 ans que je te dis les textiles, les vêtements, la nana. Mais je ne connaissais pas qu'est-ce que ça a donné à un moment que j'ai mis en lien ces vêtements avec la nature. Et ensuite, je ne savais pas quand est-ce qu'elle allait finir. Ok, je me posais la question, mais tu ne trouves pas tout de suite aujourd'hui.
Donc, ça pourrait inviter, si on t'avait dit au début, là, dans le livret d'accueil, vous faites une œuvre, mais dans un an, fini quoi.
Non, ça m'aurait pas embêté. Par contre, si on nous avait dit tu enlèves l'œuvre en un mois, on n'aurait pas découvert.
En un mois.
Oui,
bien sûr. C'est à toi de dire un peu la temporalité.
Voilà. Je n'aurais pas découvert ce que j'ai découvert aujourd'hui.
Voilà, ça va dans le sens d'un comportement organique de la nature. En fait, la nature, elle se comporte comme ça. Et quand on laisse des parcelles se débrouiller toutes seules, c'est ce qui se passe en fait. Ça devient moche, mais il se passe des choses qui émergent de là.
L'œuvre, elle doit être conçue pour ça, donc carrément. Mais elle
pour être un terrain d'observation.
Ça peut être une base de départ. Pierre n'a pas fait dans ce sens-là, toi tu l'as fait dans ce sens-là. Ben voilà. Les deux choses sont possibles. Il faut que ce soit dit par tes d'autres, que nous on pose la question et qu'on ait une réponse claire après.
Peut-être qu'on ne connaît même pas la réponse en fait nous-mêmes. Parce que ça évolue et ça vit de manière autonome en fait avec le temps. Et...
Mais la réponse c'est déjà ça en expérimentation. Ouais, en fait, ouais, comment ça va évoluer avec la nature. Ouais, donc ouais, ça nous dit oui, ça va rester ça. Voilà, ça c'est un des trucs. L'autre nous dit je suis là juste pour le patrimoine, mais mon œuvre, il faut qu'elle soit expliquée par un médiateur. Quand il n'y aura plus de médiateur, on peut la démonter, on peut la lire. Parce que sinon, elle va risquer d'être incompréhensible. Elle fait tâche dans le paysage. Et
j'ai aussi voilà. Une réponse aussi que dans la question enfant.
Oui,
jusqu'à là, acte vient pointer, vient souligner enfant d'ouverture au public du projet global du château. C'est comme un marqueur de temps, un point de réunion et un moment de. On crée, on sait. Fédère, on se rassemble autour et dans les châteaux et dans le parc autour d'un thème qui est lié au château, qui est lié au projet, pardon, le projet qu'on n'a pas encore défini. Okay. On va dire, le projet qui est là, tu as un arbre, une feuille, donc du coup, cette thématique annuelle, elle, là on la concentre en 3 jours, mais c'est 2023, c'est l'autre. L'idéal, on va dire, ça serait de pouvoir réfléchir que toute la dynamique de l'année à l'intérieur et à l'extérieur soit en fonction de l'eau. Et ça peut avoir tendance à montrer des pistes pour l'année suivante, même dans les fonctions. Par exemple, en réfléchissant sur l'eau, j'ai demandé à un minute. Comment on pourrait montrer au public où est-ce qu'est l'eau au château. Et donc, il m'a parlé du puits. Il y a un puits. Il dit oui, comment on pourrait montrer ça aux gens lors des actes. Ça, c'est déjà en soi une œuvre. Mais comment on pourrait rendre visible la vie du château autour de l'eau. Il dit mais comment les gens faisaient avec l'eau au 19e siècle. Donc, il se trouve qu'il y a tout un circuit de l'eau. Qu'on ne connaît pas. Juste pour vous dire, à partir de la thématique qui est donnée par acte, qui aiguille un axe du projet, ça pourrait fédérer et les employés et les publics le long de l'année. Ça pourrait être un petit conducteur.
Là, on met là.
Et après, on fait les traces que cette thématique qui a impacté la thématique de l'année suivante.
Oui, ça peut aller là ou là. À quoi que fédérer, c'est plutôt.
Oui, en fait, c'est pas grave.
C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est dans instituer le fait que, en proposition, un petit peu, on va dire. En chose qui se pose comme étant une règle, et pourquoi pas acte devenant l'aboutissement, un lieu qui fait aboutir en fait, ou démarrer, peu importe, ça va être le point de départ ou le point d'arrivée, d'une réflexion, d'un projet qui sur une année ou plus d'ailleurs, parce que des réflexions qui peuvent être sur 2-3 ans, et donc tout le travail scolaire, tout ce qui s'y passe, une unité,
ça
autre lecture et projet. Voilà, lecture, projet, voilà. Point de départ ou point d'arrivée avec acte, ça peut être aussi dans instituer, donc
point d'arrêt,
voilà, ou dans fédérer, parce que là on parle de ce sujet de on doit rassembler autour.
Alors Olivier, toi qui es là en permanence, qui représente les jours aussi d'ailleurs, enfin, ça, parce que là c'est intéressant et c'est très impactant aussi pour les équipes. Non, mais je regarde tout à l'heure.
Moi je crois qu'on a eu un exemple tout à l'heure de ce qui se passe et qu'on a à gérer ici, c'est quand le pharaon qui est rentré, il n'est pas formellement interdit, mais qu'il a tendance à pisser sur les sols, jusqu'ici on a eu peur qu'il pisse sur les meubles. On doit résoudre le même problème avec tout intervenant qui va venir sur le site.
C'est le chien, pour éduquer, pour que ça puisse réagir. Les nouveaux agents qui pissent sur le parquet.
C'est voilà.
Alors, va la faire comprendre.
Ça s'arrête au chien.
Bon, d'ici, il y en a qui veulent faire une vidéo sur Instagram en mettant un truc un peu loufoque et que...
Ça fait aussi chez les gens.
Hein. Ouais, c'est dans les... Donc, on peut faire rentrer les gens au château, mais on n'a rien qui est protégé, on n'a pas de structure.
Oui, mais je trouve que c'est intéressant de dérouler la boucle voilà, sur l'eau, ou avec acte, point de départ, point d'arrivée, puis peut-être pour relancer encore une boucle toujours sur l'eau ou sur autre chose. Enfin, voilà la manière dont tu le disais, la manière dont tu le reprenais, Sylvie. Je me disais, c'est vachement intéressant, ça donne du sens, ça crée une thématique, des objectifs, mais du coup, c'est à l'équipe aussi. Puisque c'est vous, quand même, qui recevez les scolaires, c'est vous qui organisez.
Et pour cette thèse, la question des thèmes, je les ai super intéressantes. Les résidences, avant, n'étaient pas liées à acte. Maintenant, ils s'y sont. Et la thématique des ateliers pédagogiques, avant, n'était pas liée à acte. Maintenant, ils s'y sont. Exemple, cette année, l'eau. Ah, bon, est-ce qu'on pourrait sortir tous les tableaux, tous les éléments, toutes les données en couleur dans les visites? Là, je suis à... Pardon, je suis projectée à 600, je les vois. 10 ans, je les vois déjà. Et à cette période-là, on sort tous les éléments de l'eau, dévoiler tout ce qui est lié à l'eau. Je pense que, c'est juste pour dire, les thématiques des actes, pointe rythme, rythme, les années, les temps, ça peut être assez important, et la recherche, et l'énergie de l'équipe.
Et moi qui suis allée écouter l'atelier d'à côté, eux ils ont des problèmes d'infiltration d'eau dans le château, donc encore une action de l'eau, mais l'eau dans tous ses états quoi, hein, voilà, qui s'infiltre du plafond dans les murs, voilà.
Du coup, il faut peut-être qu'on pense à l'acte, pas seulement comme un outil de rencontre comme il était pensé au départ, mais comme un outil pédagogique aussi pour l'autre partie du public. Un moment de rencontre pour les spécialistes, pour les éco-acteurs, et un moment pédagogique pour la partie publique.
Et puis pour les publics.
Parce que moi, c'est ce que je me disais, plus ça va qu'on commence à monter des charges, je le dis d'une façon un peu provocatrice, comme on a l'habitude, parce qu'on n'est pas des Indiens dans une réserve, il faut y penser. Mais on n'a aussi pas les savoir-faire et les connaissances, et on n'a pas été embauché ici dans ces perspectives-là. Là, on a déjà restructuré un peu, il y a un accueil public maintenant qui n'existait pas avant, parce que le concept même n'existait pas ici. Mais du coup, il y a quelqu'un qui fait les visites, si cette personne doit aussi accueillir les gens, il faut savoir que ce gars-là, et c'est aussi lui qui est chargé de la compta, normalement, c'est aussi lui qui fait... on n'est pas assez nombreux, et on n'a pas les formations nécessaires pour ce truc-là, il faut qu'on se repense, nous, avec ces nouvelles tâches-là. Donc c'est des nouveaux emplois, et c'est pas seulement des nouvelles formations, mais des nouveaux emplois, parce qu'on n'est juste pas assez nombreux. Parce que l'autre boulot, il n'a pas disparu non plus. Hein. Le boulot des archives, le boulot de la production de microfilms à diffuser pour les chercheurs, pour etc. Il existe toujours. Hein.
Et là, ce que tu dis, Olivier, je trouve que c'est entre instituer, si on veut pérenniser, et transmettre, parce que ça nécessite aussi de la formation, ça nécessite du partage. Par rapport au process,
peut-être.
Si je vous dis que dans 5 minutes on arrête, ça vous va.
Pour faire les liens avec le public, pour moi, c'est. En espagnol, il y a un truc qui dit c'est en plus. En réalité, les plus, c'est jamais les plus. Ouais. C'est les noyaux.
c'est de toute façon, c'est pour.
Ouais. Et donc, du coup, pour faire les liens à la fois avec le public, et puis ça va. Pointer aussi les lieux, va pointer quelque chose lié au territoire. La thématique peut répandre les territoires parce qu'évidemment, il y a une irrigation.
À côté, ils ont fini.
Irrigation
vers. Arrête de les
C'est ça.
exactement ça.
Vers le public, derrière où le projet, les dirigeants, les élus, voilà. Est-ce que j'avais fait comprendre?
Oui.
Mais là, du coup, on parle du comité d'espérance, on le relie à ACT, mais du coup, est-ce que ce comité d'espérance, il ne faut pas le relier à la gouvernance même du château?
Mais les châteaux,
il y a peut-être des choses à écrire là-dessus, parce que
c'est le château.
Ce comité d'espérance, il va du coup s'intégrer dans ACT et avoir du coup maintenant un événement annuel tous les ans qui va rythmer un petit peu sa vie. C'est aussi la vie du château et de toutes les autres institutions qui gravitent autour qui va être.
Il faut des représentants du château.
Ça remonte sur Paris.
Ça me fait penser à un enfant qui était ce château et ça nous tous.
Il faut que ça remonte.
Et là, par cette idée de
gouvernance.
Et puis avoir quelque chose qui peut se passer.
Alors, c'est tout le problème. C'est que nous, les grands paris, on n'a aucune dépense financière et budgétaire.
Ah, c'est ce que je disais, il faut que ça remonte.
Voilà, j'allais aborder ça.
Il n'y a pas que les idées.
Oui, non, mais c'est pour ça que s'il y a quelque chose.
On sent qu'il y a de la bonne volonté de ce côté-là, mais si la bonne volonté tombe pour une deuxième personne ou au changement politique, on est complètement dépendant de ça.
Augmenter les visiteurs, le personnel, les tâches, les choses, donc tout ça, ça coûte.
Ça coûte.
Et donc apparemment c'est gratuit, les gens viennent, s'il y a 10 000 personnes, ils vont parcourir le parc, il faut peut-être mettre en ordre des choses, ou le mobilier, bon, c'est peut-être différent, je ne sais pas, mais il y a toujours des dégradations peut-être. Et je ne sais pas si économiquement, ça va pas poser un problème en haut.
Alors, chemin faisant.
Chemin faisant, progressif. Et n'oubliez pas, maîtriser.
Vous êtes inscrit dans une région, et dans cette région, il y a les privés. Et
oui.
On va de plus en plus à des financements mixtes.
Oui, mais après, il faut un financement. De toute façon, il faut chercher un financement.
Mais au parc de la Tête d'Or à Lyon, on fait une charte, la charte du parc, qui a été signée. En fait, par les directions de la ville. Comme ça, même si les équipes changent, la charte, elle est signée et elle est.
C'est déjà 200 ans de distance, le jardin.
Non, ça date en près de même époque.
Non, je veux dire. L'ouverture au public en plein Lyon,
ça a été fait pour le démarrage. Oui, mais la charte de Lyon a fait quelques années. Oui, oui, mais je veux dire, le fait d'instituer une charte, je crois que c'était dans les années 80 ou 90 qu'ils ont écrit la première charte. Le fait que ce soit signé par les élus de l'époque, donc ici, il faut que ce soit transposé évidemment, mais bon, en tout cas, il y a des signatures qui disent que ça passe au-dessus des personnes qui peuvent.
Oui, au-dessus des personnes.
J'ai juste une question concrète, parce que sinon, je ne sais pas quoi noter. Qu'est-ce qui doit être signé? Parce que là, on dit qu'il faudrait que ce soit signé. La charte, c'est-à-dire la charte de l'Ouéro? Donc, mais qu'est-ce qui doit. La charte n'existe pas.
De quoi on parle?
Les valeurs, tout le projet qui est inclus dans la charte, c'est ça.
Tout ce qui est fait, voilà, doit
être signé de manière.
Donc, c'est la notion de prise de risque. La notion de prise de risque, vu qu'on est dans la machine française, il faut rassurer tout le monde. Donc, dans cette expérimentation, il faut. ça va pas tomber. Dans cette expérimentation, il faut rassurer le processus
et stimuler la notion de prise de risque.
Stimuler la notion de prise de risque, c'est très beau. Et stimuler, c'est génial, ça c'est bon là.
Mais ça, c'est
très bon. Non, mais parce que ça se cadre.
Oui, la stimulant, la capacité.
Non, mais
jusqu'à
ça, c'est définir des limites à l'expérimentation qui a été un peu dit tout à l'heure par rapport à des fondamentaux et versus ce qui peut évoluer. C'est-à-dire que pour permettre ça, cette recherche, expérimentation ici, des choses qu'on entraîne dans la charte, c'est le fait qu'il me semble qu'il faut clarifier un projet pour pouvoir se fédérer ici et donc bien définir ce qui peut être des fondamentaux. Pour le jardin, c'est le plan de base. Pour le château, c'est le fait de conserver. Voilà. Je ne dis pas tout ce qui a pu être dit. Les avoir clarifiés de manière à ce qu'on puisse dire ça, ça ne bouge pas. L'expériment, ça peut bouger. Ça peut évoluer dans le temps. Et parce que pour stimuler ce risque, il faut le cadrer, ce risque, ce qui va encourager effectivement les dirigeants à signer cette charte. Voilà, le risque, je le vois. Il est mesuré, l'expérimentation, je sais où elle peut se situer.
Est-ce que je peux vous couper de une minute? Parce que moi, je n'ai pas trop subi le sujet, vous êtes embarqué dans un sujet que je connais.
C'est assez abstrait, hein. C'est pas un vrai sujet.
Voilà, et comme il y avait plusieurs questions, etc., du coup, j'en ai profité, j'ai mis plein d'outils partout. Donc, je voulais savoir comment ça allait être pris en compte, notamment pour votre compte rendu, parce que du coup, il n'y a pas de compte rendu non plus au micro. Vu que voilà, j'ai essayé d'être plus concrète et je ne crois pas avoir été la seule non plus à le faire.
Oui, il y a des petits post-it qui ont peut-être.
Et du coup, on a été plusieurs à poser peut-être des choses plus concrètes, peut-être qui peuvent vous aider à structurer aussi, peut-être à
travailler sur
les outils. Et donc, voilà, comme on a plus de temps.
On peut prendre 2 minutes, chacun, on se répartit. Pour que chacun puisse au moins nous dire à nous, parce que là il y a une micro-pause, on va tout de suite.
Non, normalement,
il y a un
direct.
Moi, ça ne me dérange pas. Ouais. Ça me dérange pas. Je respecte votre discussion. Moi, j'étais un peu larguée sur la discussion, donc ça me concerne, j'ai envie de dire. Donc, ça ne me dérange pas. Mais du coup, pour avancer dans le travail que mène Isabelle, etc., je pense qu'il serait bien que les idées soient prises en compte, donc j'essaie d'écrire le plus explicitement possible, et je voulais savoir comment est-ce que vous alliez en prendre.
Alors, tout à l'heure en plénière, aujourd'hui on l'entend, mais ce qui est proposé, c'est que est-ce que, plutôt que d'être dans nous, on va faire une synthèse, effectivement, à l'écrit, c'est que si quelqu'un se sent, il commence, s'il y a quelqu'un qui se sent, il peut commencer, mais on va être dans une restitution collective, c'est-à-dire qu'effectivement, vous allez pouvoir intervenir sur des choses que vous avez mises en expliquant pourquoi.
Alors là, j'ai mis trop de choses. Je suis partie dans plein d'idées et non, franchement, ça me semble un peu.
Mais peut-être que de toute façon,
je trouve que la discussion était intéressante parce que vous étiez sur le fond de la charte, vous étiez sur des problèmes quand même assez, on va dire, assez insolubles. Et solubles à la quoi ? C'est-à-dire où on peut essayer de trouver des
idées à la plateforme,
des façons de s'en sortir de façon collective, etc. Que moi, j'ai mis des idées, enfin, j'ai fait juste de l'ajout d'idées, entre guillemets, quoi.
Et en fait, tout ça, ça va être bancarisé.
Ok.
Après, la question, c'était comment j'explicite ce que j'ai mis sur le post-it. Peut-être. C'était ça la question ou pas du tout?
Non.
Ou la valeur qu'on y donne, enfin...
Je pense que les post-it peuvent être utilisés, ça va donner des outils. Par exemple, voilà, je vais dire pour les enfants, parce que là, la charte peut être déclinée en différents outils.
Ouais.
Donc, je vais donner des outils pour les enfants, pour les adultes, pour les kinesthésiques, les auditifs, les visuels. Et je ne vais pas passer là du temps à vous expliquer le truc.
D'accord, ça, c'est super. Ça suffit à ce moment-là.
En gros, je suis très pragmatique. J'ai répondu juste aux questions pour qu'on avance pendant que
très bien.
Vous
êtes en train de
décider. C'est ce qui te rappelle la complémentarité. Mais pas de souci, ça veut dire que nous, on capitalise sur tout ça et on sera en capacité de faire la part entre ce qui relève de la réflexion, de questions
personnelles. On ne comprend pas forcément ce que
ce serait. D'accord. Écrites.
C'est ça.
Voilà. Donc, l'art de descendre, c'est qu'il y ait un règlement et que ça puisse aider à avancer le projet et non pas rester dans l'oubli. Parce que
des fois, il y en a qui se sentent de commencer à.
Allez, on y va. On essaie de ne pas perdre de post-it.
J'ai l'impression que tu avais écrit.
Alors, vous prenez votre chaise. Vous avez votre système. Prenez vos chaises. Quand tu vois des petites cartes d'accent.
Non, mais parce que finalement, on a posé une question beaucoup plus précise. En fait, on a fait péter la question. Je ne sais même pas si j'en parle de péter la question. Parce que la question d'arrivée, c'est...
Je te laisse une chaise pour que tu puisses. Non, tu fais le résumé en live.
Ah oui, je verrai, je vais te.
Je laisse une chaise pour éventuellement
que tu puisses réfléchir. Mais vous voyez, vous voyez.
Pourquoi elle a dit?
Comment est-ce que... Il a dû couper, là, je pense.
Non.
Est-ce que tu m'entends, là, dedans?
Il a un registre. On lui amène.
Mais dis-moi, je suis en train de s'occuper de l'autre,
après. Je veux l'amener. C'est bien, David.
Après, moi, je suis...
David.
Vous allez avoir du... Oui, voilà, merci. J'allais aller chercher.